Vous écoutez, on lit pour vous.
Peut-on combattre un incendie avec de l'eau de mer? Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 11 janvier 2025 dans la presse. Les pompiers de Los Angeles se sont retrouvés à sec en janvier 2025. Ils ont vidé 3 réservoirs de l'État de Californie et demandé aux citoyens de limiter leur consommation d'eau. Mais pourrait-on mettre l'eau du Pacifique à contribution? Pourquoi n'utilisons-nous pas l'eau salée pour combattre les incendies de forêt à Los Angeles? Dans les faits, on puise de l'eau dans l'océan Pacifique pour combattre les incendies de forêt qui ravagent la Cité des Anges. C'est le cas, entre autres, des 2 appareils Canadair CL-415, chacun équipé d'un réservoir d'une capacité de 6000 litres. Ces 2 avions et leurs pilotes relèvent du gouvernement du Québec, mais sont affectés en Californie chaque automne en vertu d'une entente avec les autorités américaines. Les 2 avions font actuellement le plein d'eau dans l'océan Pacifique, confirme à la presse la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU. Dans ce contexte, avec autant d'eau à la disposition des autorités, ne devrait-on pas rapidement venir à bout de ces incendies? Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les Canadair CL-415 sont des appareils uniques au monde, rappelle Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 2 avions affectés à la lutte contre les incendies à Los Angeles, bien que 2 autres doivent s'ajouter dès la semaine prochaine, précise M. Caron. Ils ont été conçus pour répondre au contexte canadien où on ne manque pas de lacs et de rivières pour s'approvisionner en eau. L'eau salée va rendre les appareils plus vulnérables à la corrosion, explique M. Caron. Chaque jour, ça prend un nettoyage complet des appareils et des réservoirs. Il faut aussi que le plan d'eau soit relativement calme pour permettre à l'appareil de s'y poser pour remplir son réservoir, ce qui est plus facile à faire sur un lac que dans l'océan, ajoute l'expert. Ces avions arrivent-ils quand même à éteindre des incendies? Un avion citerne ne va pas éteindre un feu. Il va le contenir, le diminuer pour permettre aux pompiers au sol d'aller l'éteindre. Pour l'éteindre vraiment, il faut aller en profondeur, explique Stéphane Caron. Les appareils, comme les CL-415, travaillent en duo. Pour une stratégie efficace contre le feu, ils doivent vider leur réservoir toutes les 10 minutes. Pendant qu'un avion largue son eau, l'autre va chercher de l'eau. Il y a comme une chaîne pour taper le feu. Il faut que ça soit en continu pour avoir une efficacité, ajoute M. Caron. Pourquoi est-ce qu'on ne pompe pas l'eau directement dans l'océan pour alimenter les équipes au sol? Là encore, l'eau de mer pose plusieurs défis. Une option serait de pomper l'eau de l'océan Pacifique dans le réseau d'aqueduc de Los Angeles. On ne manquerait pas d'eau pour combattre les incendies. Mais cela entraînerait un problème de taille, soutient Pascal Caron, chargé de cours et ingénieur spécialisé en protection d'incendies. Le problème, c'est que si tu mets de l'eau salée dans le réseau d'eau potable, tu viens de créer un autre problème de contamination d'eau. Il faut tout nettoyer et ça devient quasiment impossible parce qu'il faut que tu chlores ça et il faut prendre des échantillons et on n'en finit plus. La solution n'est pas idéale non plus pour les pompiers qui pourraient remplir les réservoirs de leurs camions avec de l'eau salée. Mais plusieurs pièces des réservoirs et autres équipements des pompiers sont en métal et résisteraient mal à la corrosion provoquée par le sel, explique le site américain technology.org, spécialisé dans la science et la technologie. Y a-t-il d'autres inconvénients à utiliser de l'eau de mer pour combattre des incendies? Selon les scientifiques, l'eau salée aurait un effet refroidissant moins important que l'eau douce. L'effet refroidissant de l'eau de mer est légèrement inférieur à celui de l'eau douce. Et il diminue avec l'augmentation des concentrations de sel dans l'eau de mer, concluait une étude publiée dans la revue spécialisée International Journal of Refrigeration en 2021. D'un point de vue environnemental, larguer de l'eau salée sur la végétation, ce n'est pas idéal, souligne Stéphane Caron de la SOPFEU. De telles quantités peuvent notamment affecter le sol et nuire à la régénération des végétaux. C'est une option employée en dernier recours. Au Québec, la SOPFEU se ravitaille en eau de mer pour combattre des incendies en Gaspésie, par exemple, quand il n'y a pas d'autres options, ajoute M. Caron. C'était « Peut-on combattre un incendie avec de l'eau de mer ?» un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 11 janvier 2025 dans La Presse.
Néolibéralisme, risque et suicide. Un entretien avec Eliana Cárdenas, réalisé par Salvatore David Hernandez, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau cahier du socialisme. Eliana Cárdenas est professeure au département des sciences sociales de l'Université de Quintana Roo au Mexique. Au cours des dernières années, les travaux de recherche de Mme Cárdenas se sont concentrés sur l'étude du suicide. Selon elle, les suicides ne sont pas simplement le résultat de choix individuels, mais plutôt la conséquence de la mise en place d'un système de mort, le capitalisme dans sa phase néolibérale. Ce système a créé des populations qui sont poussées vers le suicide. On n'a qu'à penser aux Autochtones dont les taux de suicide sont alarmants. Il est également possible de comprendre ce phénomène social comme une forme de protestation politique, peut-être le dernier outil des acteurs pour dénoncer leur propre marginalité et leur position périphérique par rapport à un pouvoir qui ne les prend pas en compte. L'autrice démontre que le suicide est une expression politique dans un contexte de silence des structures sociales traditionnelles. Eliana, merci beaucoup de nous rencontrer pour cet entretien. Je voudrais commencer par une phrase mentionnée lors d'une conversation récente, celle de Margaret Thatcher en 1985. « L'économie est la méthode, l'objectif est de changer l'âme et le cœur. » J'aimerais que, sur la base de cette phrase et du travail que tu as réalisé ces dernières années sur le suicide, nous puissions établir un lien entre le capitalisme et la santé mentale. Tout d'abord, je souhaite aborder la phrase. En réalité, le modèle néolibéral qui est né avec l'école de Chicago et Milton Friedman, prix Nobel d'économie, est un projet économique qui a des caractéristiques très spécifiques. Il est bon de rappeler d'abord que ce modèle a été initialement mis en œuvre au Chili dans un contexte de grande violence, celui lié au coup d'État du général Pinochet contre le gouvernement démocratique du président Salvador Allende en 1973. À partir de ce moment, le Chili est devenu le laboratoire économique pour la mise en œuvre du modèle néolibéral. La phrase de Thatcher s'est transformée en quelque chose de plus qu'une simple déclaration. Elle est devenue une sorte de sentence. L'économie est présentée comme une méthode, mais pas seulement pour produire de la richesse ou pour une nouvelle organisation sociale de la production de biens. C'est une phrase puissante qui établit que l'économie a un objectif qui va bien au-delà. Changer l'âme et le cœur des gens. En ce sens, Thatcher dit qu'une nouvelle rationalité est créée à partir de ce modèle. Cette nouvelle rationalité implique non seulement de nouveaux paradigmes marqués par la précarisation de l'emploi, les grands licenciements et la désagrégation des collectifs, mais elle caractérise également l'individualisation de l'inégalité. Par conséquent, la question que nous devons nous poser est quel type de sujet cette rationalité néolibérale produit-elle? Celle-ci est marquée non seulement par la précarité et l'incertitude professionnelle qui rendent difficile pour les personnes de planifier leur vie, mais la vie est également fragmentée et déterminée par des processus de grande incertitude. Richard Sennett affirme même que cette rationalité néolibérale liée à la précarisation de l'emploi porte atteinte non seulement au marché du travail, mais à l'idée même du travail. Cette nouvelle rationalité néolibérale a engendré un processus de distorsion de la vie quotidienne. Les grammaires sociales caractérisées par l'incertitude ont augmenté. Il y a même un processus de désymbolisation et des phénomènes psychotiques de masse qui ont été observés. Dans ce contexte, pour des auteurs comme Richard Sennett et Barbara Ehrenreich, ce ne sont pas des processus de subjectivité qui ont été réellement produits, mais des processus de subjectivation. Pourriez-vous nous parler un peu de la manière dont fonctionne le processus d'individualisation? La sociologie du risque, avec des auteurs comme Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, a, entre autres, la vertu de reconnaître tout d'abord que si quelque chose caractérise le modèle néolibéral, c'est l'individualisation de l'inégalité. Auparavant, les problèmes touchaient des classes, des secteurs et des travailleurs et travailleuses. En fait, le concept même de classe s'est dissous dans ce processus d'individualisation. L'individualisation n'est pas de l'individualisme au sens traditionnel de la sociologie. Ici, je fais référence à Norbert Elias, à Durkheim et même à Simmel, qui parlent de processus d'individualisme et de la manière dont la modernité a facilité l'émergence de l'individu. La question est ici beaucoup plus complexe, car elle concerne la façon dont le modèle néolibéral a réussi à individualiser des problèmes qui sont structurels. Il a fait en sorte que les gens considèrent comme personnels des problèmes qui sont en réalité structurels. En ce sens, ce que nous observons est un mécanisme par lequel les problèmes découlant d'un système inégal deviennent un problème d'intimité subjective. Cela signifie qu'au final, le processus d'individualisation exacerbé n'est rien d'autre qu'un modèle qui oblige les personnes à résoudre des problèmes structurels au niveau personnel. Cette tendance à l'individualisation alimente également un système de culpabilisation. Le capitalisme n'a plus besoin de violences massives ou de répression pour se maintenir. La criminalisation de la vie quotidienne est devenue un mécanisme de contrôle social suffisamment efficace. En fin de compte, l'augmentation globale des taux de suicide et la prolifération des maladies mentales dans le contexte du capitalisme mondial montrent comment les problèmes structurels sont internalisés et deviennent intimes et subjectifs. Richard Sennett aborde les conséquences du travail sur le plan personnel dans le nouveau capitalisme. À son avis, l'instabilité de l'emploi et la dépersonnalisation ont eu des effets psychologiques graves. Pour lui, il est crucial de récupérer le concept de caractère en opposition à personnalité, car le caractère ne peut être construit qu'en relation avec les autres, tandis que la personnalité peut exister en isolement. Vous écoutez « Néolibéralisme, risque et suicide », un entretien avec Eliana Cardenas, réalisé par Salvatore David Hernandez, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau Cahier du Socialisme. Comment ce processus d'individualisation est-il lié au suicide et à la maladie mentale? Le suicide constitue une épidémie silencieuse. Si nous observons attentivement le paysage mondial, le suicide est devenu l'une des principales causes de décès, et cela est lié à l'expansion globale du capitalisme. Je pense que nous ne pouvons pas parler de maladie mentale, un terme qui me met quelque peu mal à l'aise, sans d'abord examiner les conditions ou les systèmes dans lesquels les gens vivent. Cela me semble être une question cruciale. la sociologie du risque a également fait des progrès sur l'établissement de liens entre d'importants débats disciplinaires sur le suicide. D'un côté, nous avons les sociologues qui tentent principalement d'expliquer le suicide à partir de perspectives sociales telles que la pauvreté ou les états anomiques. D'un autre côté, nous avons des psychologues et des médecins qui tentent d'expliquer les problèmes mentaux des individus comme étant le résultat d'une personnalité morbide, déviante et inadaptée, alors que c'est en réalité le système qui est malsain et qui crée ses propres marginaux. Ainsi, la psychologie contribue également à ce processus d'individualisation. On aboutit à deux domaines qui ne parviennent pas à se connecter. Le modèle néolibéral n'est pas seulement un modèle économique ni simplement un mode de production de biens et services, c'est aussi un modèle de production de subjectivité, de mode de vie et de relations interpersonnelles. Le néolibéralisme n'est pas seulement un système économique, c'est aussi un système idéologique. Il propage l'idée que chacun est l'architecte de son propre destin, une pensée que je qualifierais de magique, parce qu'elle suggère qu'il suffit que les individus nourrissent un désir profond pour le succès et ils pourront l'atteindre. Cette idée ignore les structures sociales et économiques qui affectent nos vies. Le néolibéralisme ne peut pas garantir la prospérité économique sans générer l'exclusion sociale et des sentiments d'échec. Nous sommes, en fait, face à des idéologies inhérentes au capitalisme. Dans ce cadre, il se présente comme un système de mort car les gens se sont obligés de s'adapter ou de rester en marge. De nombreux auteurs ont souligné que l'idéologie de la pensée positive, en tant qu'idéologie, mais surtout en tant que pratique culturelle, proclame que tu peux faire tout ce que tu te proposes. Les obstacles ne sont pas un échec, mais une opportunité de recommencer. Cela renouvelle l'image de Sisyphe, le héros tragique condamné à toujours recommencer. L'idéologie de la pensée positive révèle que l'échec est la bataille que tu perds non pas à cause des conditions oppressantes du système, mais par toi-même. Par conséquent, l'obstacle est en toi. L'échec résulte de ta propre incapacité à surmonter tes peurs et de t'être laissé submerger par des pensées et des émotions négatives. Cela est clairement un modèle qui façonne les subjectivités, les cœurs et les esprits. La pensée positive a ses gourous, ses prophètes, ses tribunes pour propager la tyrannie du bonheur, mais il se manifeste également dans des messages qui inondent les réseaux sociaux et se répandent avec de bonnes intentions. Son impact et sa promotion révèlent l'adhésion des personnes à un système qui les érode de l'intérieur. Comprenons-le une fois pour toutes. L'idéologie de la pensée positive vise à faire de l'argent. Ceux qui n'y parviennent pas sont des consommateurs ratés et donc jetables. C'est l'une des raisons qui contribuent à l'idéation et à la réalisation de l'acte suicidaire. Par exemple, dans mes études sur le suicide, il est frappant de voir comment les personnes au chômage craignent d'être étiquetées comme ratées parce qu'elles ont intériorisé l'idée que l'échec est de leur faute. Dans ce contexte, il y a un urgent besoin de rétablir des liens communautaires plus forts. Comme le disait le poète mexicain Octavio Paz, la seule façon de se trouver soi-même est de se chercher parmi les autres. Quel est le lien entre le processus d'individualisation et la médicalisation de la maladie mentale? La médicalisation de la société est une autre facette de l'individualisation et de la marchandisation de problèmes qui sont fondamentalement sociaux. La tendance à prescrire des médicaments pour traiter les symptômes de problèmes plus larges liés à la souffrance humaine et aux conditions de travail s'inscrit parfaitement dans le modèle capitaliste. Ce modèle privilégie des solutions rapides et rentables plutôt que de s'attaquer aux causes profondes des problèmes. Cette médicalisation est étroitement liée à un mécanisme social spécifique qui nous inculque une logique particulière. Si vous êtes un perdant, un terme devenu de plus en plus courant et considéré comme l'une des pires insultes dans la société actuelle, alors c'est de votre faute. Cette mentalité a engendré de nouvelles formes d'auto-culpabilisation et a créé de nouveaux stigmates sociaux. Il existe toute une gamme de médicaments conçus pour réguler notre état émotionnel, des somnifères à des substances comme la cocaïne. Même dans les pays comme Cuba, où le taux de suicide est extrêmement élevé, la tendance à la médicalisation est omniprésente. Vous écoutez « Néolibéralisme, risque et suicide », un entretien avec Eliana Cárdenas, réalisé par Salvatore David Hernandez, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau cahier du socialisme. J'aimerais que vous nous expliquiez davantage comment le contexte spécifique de l'individualisation entre en conflit avec une perspective plus communautaire. La tendance à l'individualisation peut amener les gens à sentir qu'ils portent tout le poids du monde sur leurs épaules, car ils négligent le fait que nombre de leurs échecs et les pressions qu'ils subissent sont le résultat de systèmes plus larges et de structures de pouvoir. Dans une société avec une orientation plus communautaire, les problèmes sont partagés et par conséquent, les solutions tendent également à être collectives. Dans un environnement individualisé, chaque personne se sent isolée avec sa propre souffrance, ce qui peut entraîner un cercle vicieux d'auto-culpabilisation et de désespoir. Cela fait partie de la sociologie du risque, qui suggère que des problèmes qui sont externes deviennent des problèmes d'intimité subjective. Il y a de nombreuses façons pour décrire le modèle néolibéral, mais en ce moment, je pense à Rita Segato, l'une des autrices qui parle explicitement du capitalisme néolibéral comme d'un système de mort. Et ce système de mort génère également des pathologies très spécifiques. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces deux paradigmes, le néolibéralisme et la perspective communautaire, entrent en collision. Dans les communautés dotées de systèmes de soutien solides et de structures communautaires robustes, l'impact du néolibéralisme et de l'individualisation peut être moins sévère. Cependant, dans les endroits où le néolibéralisme a érodé ses structures, le sentiment d'isolement et l'accent mis sur le « moi » plutôt que sur le « nous » peuvent devenir accablants. Ce contraste peut être une source significative de tension dans la société. Les taux de suicide au sein des communautés autochtones sont alarmants. Il serait pertinent de comprendre comment cela est lié à la rupture communautaire que nous observons dans ces communautés au Canada, mais également en Amérique latine. Dans les communautés ancestrales, il y a un intérêt croissant à comprendre l'impact du capitalisme sur leur mode de vie. Au Mexique, il existe une croyance erronée et profondément enracinée parmi les conservateurs que les communautés autochtones ont vécu isolées de la modernité et que les taux élevés de suicide sont liés à leur tradition. Ce préjugé empêche une analyse plus profonde de la désintégration communautaire qui se produit réellement au sein de ces communautés. Je vis dans un État qui contribue de manière significative au PIB du Mexique grâce au tourisme. Cependant, c'est aussi un État avec l'un des taux de suicide les plus élevés, notamment parmi les populations autochtones. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le suicide n'est pas exclusif aux zones de pauvreté extrême. Dans cet État, ainsi que dans certaines régions de la Colombie et de l'Amérique latine, les taux élevés de suicide se trouvent dans des zones où les gens ont été forcés de modifier leur relation ancestrale avec la terre. La situation est aggravée par l'exploitation du tourisme d'entreprise qui non seulement relègue les communautés autochtones à des positions subalternes dans la société, mais monétise également leur culture. Tout cela se produit dans un contexte de conditions climatiques extrêmes où, dans certains cas, l'absence de pluie pendant 4 ans a rendu l'agriculture et l'élevage presque impossibles, exacerbant encore davantage la vulnérabilité de ces communautés. Ce type d'exploitation et de déplacement a conduit à des formes aiguës de discrimination. Nous en sommes arrivés à un point où le suicide est devenu une sorte de produit, une façon d'exorciser et de simplifier la complexité de la vie et des défis auxquels sont confrontées les personnes dans ces communautés. Dans ce contexte, on pourrait affirmer que le suicide est un acte politique, une forme de résistance contre le pouvoir, contre un système qui a réussi à faire accepter aux gens leur propre inutilité, les conduisant finalement à mettre fin à leur propre vie. Le système n'a plus besoin de grandes purges ou de massacres en masse. Il n'a plus besoin de nous tuer. Les gens le font de leurs propres mains. Ce modèle tente de nous rendre responsables de problèmes sociaux pour lesquels une solution individuelle est impossible. C'est pourquoi les gens échouent, car il n'y a pas de solution possible. Mais cette impossibilité est perçu comme un échec personnel. Les individus accumulent ainsi échec, honte et humiliation qui laissent des sédiments mortels dans leur subjectivité. Considérer le suicide comme un phénomène politique revient à identifier le pouvoir comme étant responsable du nombre croissant de morts qui s'accumulent dans les médias comme des gouttes d'eau incessantes. Cela implique de tenir les États responsables et de mettre en lumière les coupables. Il s'agit de déplacer la problématique du domaine de l'intimité personnelle vers le champ du visible en exposant les dynamiques politiques et économiques. Un système qui prive les populations de gagner leur vie d'une manière sûre et digne et d'avoir une place garantie au sein de la société est extractiviste, écocide et génocidaire, et cette réalité doit être mise en évidence dans chaque cas de suicide. Un acte de résistance profonde contre la banalisation du suicide nécessite de focaliser moins sur la mort elle-même et davantage sur les conditions de vie. Il s'agit d'interroger les conditions limitantes que ce système impose aux individus. En faisant cela, nous mettons en lumière le caractère nécropolitique du système en place. C'était Néolibéralisme, risque et suicide, un entretien avec Eliana Cárdenas, réalisé par Salvatore David Hernandez, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau cahier du socialisme.